Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, place au débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Julien.
Étienne Girard, rédacteur en chef société à L'Express. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Julien.
Et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur du site d'Info Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Alors on commence par cette grande nouveauté, cette réforme de la justice portée par le ministre Éric Dupond-Moretti, des caméras dans les prétoires. C'est du jamais vu. Comme aux États-Unis, il sera désormais autorisé de filmer les salles d'audience pour diffuser les procès. C'est un changement majeur qui suscite la polémique parmi les avocats et les magistrats. Éric Dupond-Moretti, lui, se justifie.
Ça a pour but, mais quand même on va le dire, hein, parce que ça c'est essentiel, de permettre aux Français de mieux appréhender leur justice. C'est du pédagogique et du pédagogique et rien de trash. Et d'ailleurs, ces procès ne seront diffusés qu'à compter du moment où ils ont connu leur épilogue définitif. Je ne veux surtout pas d'interférence entre le procès médiatique et le vrai procès.
Bon, que faut-il en penser, Bruno Jeudy ? Ça pose tout un tas de questions, on y reviendra dans le détail. D'abord, votre réaction.
Moi, sur le principe, je ne suis pas contre. Sur la question de la pédagogie, je crois que c'est vrai. Éric Dupond-Moretti pose un diagnostic qui est assez juste. Les Français connaissent pas leur justice parce qu'elle est finalement très compliquée.
Oui.
Elle s'est sans doute beaucoup éloignée des justiciables. Et en plus, elle nourrit aujourd'hui beaucoup de critiques elle-même sur la longueur des procédures, sur la non-application des peines ou l'application des peines trop tardive. Donc, c'est vrai que les Français ne savent pas comment ça se passe à l'intérieur, finalement, des cours et tribunaux. Et sans doute qu'ils appréhenderaient peut-être mieux aussi la difficulté de la justice. Et peut-être aussi d'un laxisme qu'on dénonce et qui, finalement, n'est pas toujours vrai, loin de là. Parce qu'il faut voir que, quand même, tous les jours, il y a beaucoup de peines qui sont... Qui sont prononcées et qui sont lourdes.
C'était déjà possible de filmer les procès dans des cas extrêmement rares, hein, quand il y avait un intérêt d'archives historiques. C'est la loi Badinter qui a permis, par exemple, de filmer le procès Klaus Barbie. Mais là, ce qui change, c'est que tous les procès seraient concernés. Les procès importants, les procès civils, pénals, avec des questions qui se posent notamment sur la présomption d'innocence, hein, le poids des images qui peut porter quand même préjudice à l'accusé, la protection évidemment de la vie privée. Et puis certains disent, avec la médiatisation, qu'il pourrait y avoir autour, ça pourrait faire une forme de pression aussi sur les juges. Votre avis, Jean-Sébastien Ferjou ?
Je comprends, moi, la volonté de pédagogie, mais c'est vrai que ces questions-là, on ne peut pas les balayer d'un revers de la main, d'autant qu'il est assez paradoxal de constater qu'on n'a pas le droit de publier la photo, ne serait-ce que de quelqu'un qui porterait des menottes, mais là, finalement, les images...
Oui.
Donc on peut imaginer que tout serait flouté, mais du coup, regarder des choses où tout est flouté, c'est aussi pas forcément un produit grand public, donc je ne sais pas si, du coup, la volonté de pédagogie est atteinte. Et surtout, moi, ce que je trouve un peu étonnant, c'est que cette annonce-là, elle permet de masquer celle qui est faite conjointement et qui est celle de la généralisation des cours criminels, c'est-à-dire de cours de magistrats professionnels, là où avant, un certain nombre de crimes étaient jugés dans le cadre de cours d'assises avec des jurys populaires. Donc après, il peut y avoir des arguments dans un sens et dans l'autre, mais enfin, il me semble que c'est loin d'être une réforme purement technique et que c'est assez étrange que les débats, finalement, soient masqués sous des considérations qui sont intéressantes, parce que c'est un vrai sujet, et on sait que d'autres pays, et vous le rappeliez, les États-Unis le font, mais ça me paraît finalement une question beaucoup moins importante de savoir si c'est filmé ou pas, que c'est de savoir qui sont les gens qui jugent.
Mais ça fait partie d'un tout, et ça fait partie d'une intrusion quand même, des caméras, des micros dans les cours d'assises, dans les cours pénales, dans la justice un peu
et
tous les jours.
Et on ne se comporte pas de la même manière quand une caméra est présente.
Voilà. Est-ce que pour vous, c'est un progrès, Étienne Girard, ou alors, comme on disait tout à l'heure, c'est le début d'une espèce de justice spectacle ?
Non, je pense que c'est une très bonne mesure. D'ailleurs, le dispositif qui a été retenu est prudent, hein, la diffusion. Parce que ce qui est important, ce n'est pas finalement la captation, c'est la diffusion. La diffusion, elle aura lieu une fois que la décision de justice aura été rendue définitive.
Oui.
C'est un temps qui est ultra raisonnable. Ça veut dire, entre la captation et la diffusion, donc il y a souvent des appels, il y a souvent des pourvois en cassation, ça veut dire 5 ou 6 ans après le procès. Bon, c'est raisonnable. Et je vais vous raconter l'histoire.
Ça peut être rapide aussi. Hein. Si vous prenez le procès d'Aval, par exemple, il n'y a pas eu d'appel derrière, il n'y a pas eu de pourvoi.
Oui.
Et donc, on aurait pu imaginer que ce soit diffusé 3 mois plus tard.
Oui, mais sitôt que c'est définitif, ça ne porte pas question sur la présomption d'innocence.
Oui.
Et moi, ce qui s'est passé autour de la plaidoirie de Richard Malka m'a interrogé au procès, Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, au procès des attentats de janvier 2015. Évidemment, sa plaidoirie n'a pas été filmée. Très belle plaidoirie. Il en a donné une version écrite au journal Le Monde, qu'il a diffusée par écrit. Effectivement, c'est un très beau document. Mmh. C'est un superbe document.
Oui.
Ce document-là, à mon avis, il est intéressant pour l'ensemble des citoyens français.
Oui.
Et donc, ça aurait,
on n'a pas besoin de filmer pour ça. Hein. Il y a une pièce de théâtre avec un bouquin qui a été fait qui s'appelle Plaidoirie, qui a été joué par Richard Berry, où on revient sur des plaidoiries célèbres. Il y a les avocats qui peuvent transcrire leurs plaidoiries, il y a des écrits. On n'a pas besoin.
Éric Dupond-Moretti est monté sur scène lui-même.
C'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Ce sera encore plus fort, plutôt que d'avoir une plaidoirie, ce serait plus fort d'avoir tout le procès. Le procès Charlie Hebdo, alors lui, il a été filmé, donc ce n'est pas forcément le bon exemple, mais on pourra le voir dans très longtemps. Qu'on puisse voir ce type de procès assez peu de temps, c'est-à-dire de la même génération.
Allez, un petit mot de Jean-Sébastien Ferjou.
Pour la même génération, c'est important.
Et on avance.
Non, mais après, c'est qui va le regarder et dans quelles circonstances, parce que tout est là. Et encore une fois, c'est un point qui est quand même... On pouvait déjà filmer. Après, c'était beaucoup de négociations. Mais je me souviens, dans certaines émissions de télévision pour lesquelles j'ai travaillé, on négociait et on filmait des procès en assises. Après, qu'est-ce que ça change dans l'absolu? Pour le coup, la question de qui prend la décision... Et effectivement, est-ce qu'il y a-t-il une relation entre l'affichage des décisions ou des débats et les décisions elles-mêmes? Enfin, ça me paraît quand même survoler en quelque sorte la question du lien de confiance entre les Français et la justice.
Bien. Merci à tous les trois. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de Spoutnik. Il paraît que la région PACA va avoir ses premières doses. 500 000 doses, nous dit Renaud Muselier. On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.